chers auditeurs, bonsoir. Il est 18h passé de 13 minutes et vous écoutez Radio Campus Tours. Bienvenue dans Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Et ce soir, nous avons un invité qui est maquettiste. Et bonjour à toi, invité maquettiste.
Bonjour.
Tu t'appelles Nicolas Rubio.
C'est ça, tout à fait. Nicolas Rubio, d'ailleurs.
Nicolas Rubio, voilà. Alors, Nicolas, on va dire à la francisé, hein, ce sera plus simple. Ou alors, Nicolas, si tu y tiens.
Non, non, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc tu es maquettiste et tu es lié, ou pas peut-être, à la coopérative Artefact.
Tout à fait, la coopérative qui est à la pépinière du Sanitas.
Voilà. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer déjà comment tu es devenu maquettiste. Peut-être tu pourras nous dire après, c'est quoi être maquettiste? En quoi consiste ton travail?
Ouais. Alors, moi, je suis devenu maquettiste au début des années 2000. 2003, je crois, précisément. Mais j'ai commencé à faire mes premières maquettes professionnelles quand j'étais en fait un gamin. Puisque j'avais un oncle en Italie qui lui est maquettiste aussi, donc ça m'a permis de découvrir le métier. Et puis comme les étés j'étais souvent avec lui et que lui il avait beaucoup de travail, donc mes journées c'était souvent dans un atelier où on faisait quelques petites tâches bien sûr adaptées à mon âge à l'époque, mais c'était déjà un début.
Donc ça veut dire que tu as toujours voulu faire ça?
Alors à l'époque, moi je ne le voyais pas comme un métier, je ne pensais pas que je serais plus tard maquettiste, c'était juste une activité qui était dans la famille, donc c'était quelque chose de normal. Et c'est en fait quand j'avais déjà une vingtaine d'années que je me suis dit que c'était une bonne voie, puisque j'aimais bien faire des choses avec mes mains, que j'aimais beaucoup l'architecture, et donc c'est un peu naturellement que je suis allé vers ces milieux-là.
Et alors, ces milieux-là, comment on fait pour y rentrer? Voilà, quelles études on fait pour être maquettiste?
Eh bien, il y a quelques études qui peuvent être en France. Moi, j'ai fait mes études en Espagne, d'où je suis originaire, dans une école d'art. Mais ici, en France, on a plusieurs possibilités, que ce soit des mentions complémentaires ou alors que ce soit des formations en alternance. Vous avez un site, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, un site très intéressant qui s'appelle onicep.fr. Vous connaissez peut-être.
Mais bien sûr, je suis convaincue que nos auditeurs, étudiants ou lycéens sont férus de sites de ce genre.
Bien sûr. Donc, vous pouvez voir les différentes modalités pour faire ce type de formation.
Et du coup, est-ce que tu as eu, quel genre de formation à peu près hein, on trouve en France? Est-ce que c'est des choses publiques? Est-ce que c'est payant? Comment est-ce que tu as une idée en fait de...
Oui, alors je suis souvent contacté par ces écoles-là pour justement prendre des stagiaires. Il y a à Castenberg en Bretagne, il y a une mention complémentaire. Donc c'est juste une année qui se fait plus un stage. Donc ça, c'est la mention complémentaire. Il y a une formation en alternance, j'essaie de me souvenir en même temps, si je ne dis pas de bêtises, à Lyon. Et cette formation, elle s'est faite sur 2 ans, il me semble. Donc vous avez plusieurs possibilités. Il y a aussi, enfin, après, je dis ça toujours, le métier des maquettistes n'est pas très connu aujourd'hui et... c'est pour cela que beaucoup de maquettistes viennent à ces métiers par d'autres biais. C'est-à-dire qu'il y a des architectes qui ont fait leur formation d'architecte, mais qui ne souhaitent pas exercer comme architecte. Donc, ils peuvent toujours se retrouver dans ces métiers-là. Il y a des designers, il y a plein d'autres métiers qui seraient liés à l'architecture ou au métier des maquettistes. Et donc, ça leur permet de devenir maquettiste sans pour autant avoir un diplôme.
Donc, on peut aussi être maquettiste en formation initiale si on veut faire ça.
Oui, tout à fait. On peut.
À ton avis, si un jeune ou une jeune d'ailleurs a envie d'être maquettiste, quelle qualité te semble nécessaire ou souhaitable pour se lancer dans ce genre de cursus, pour faire ce métier?
Alors, il y a beaucoup d'éléments nécessaires ou on va dire plutôt souhaitables pour devenir maquettiste. Il faut, à mon avis, bien sûr, aimer le travail manuel. C'est la première des choses, puisque tout est fait avec nos mains, même si aujourd'hui on utilise pas mal des machines, la commande numérique ou autre. Donc on doit aimer le travail manuel. On doit avoir une bonne représentation spatiale. Bon, ça c'est, je dis toujours que ça peut venir après. En fait, le fait de lire un plan, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc nous aujourd'hui, quand on lit un plan, on a aussi en même temps un volume qui s'est créé dans notre tête, permettant de voir où sont les ouvertures ou comment les différentes pièces vont venir assembler. Un autre élément important, c'est qu'on doit être un peu patient et persévérant. Donc, bien sûr, les maquettes, ça ne se fait pas toujours facilement. Donc, il faut pouvoir essayer plusieurs fois les mêmes techniques, les mêmes choses, ou alors essayer des nouvelles solutions au même problème. Et donc, pour ça, il faut être un peu patient. Il faut un peu des rigueurs et des précisions. Ça, c'est aussi basique. Et puis après, trois autres éléments qui me paraissent importants, c'est être un peu créatif, être assez attiré par l'informatique. Donc, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup, beaucoup avec des ordinateurs qui vont commander des machines, même si, comme je disais, il y a toujours la partie manuelle. Et le dernier élément important, je pense que c'est la capacité d'adaptation. Puisque même si les étapes sont plus ou moins les mêmes pour les différents projets, chaque projet est vraiment différent. Donc il faut pouvoir s'adapter, pouvoir trouver des solutions différentes.
Et alors, il me semble, mais j'ai des antisèches, que le métier de maquettiste est reconnu comme métier d'art. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? C'est pourquoi un métier d'art?
Tout à fait. Alors en France, il y a plusieurs structures qui regroupent les métiers d'art, notamment l'Institut des métiers d'art, INMA, pour ceux qui connaissent. Enfin, je connais pas tant que ça ces structures-là. Je sais que ce métier, il fait partie donc de ces métiers d'art, puisque il y a toujours une partie artistique. Nous créons avec nos mains. Et nous donnons toujours entre guillemets, une patte différente selon notre style, notre besoin ou nos capacités.
Alors du coup, un maquettiste, il est à la fois artisan et artiste.
Exactement, ouais.
Et puis alors finalement, parce qu'on parle de maquette, mais une maquette, c'est exactement c'est quoi et ça sert à quoi?
Alors, une maquette peut avoir plusieurs utilités. J'essaie d'organiser dans ma tête pour que ça soit clair pour les gens. En fait, vous allez avoir d'une part les prototypes qui sont des maquettes qui sont souvent utilisées dans l'industrie. Vous avez vu sûrement je sais pas, quand on va lancer une chaîne par exemple de fabrication d'une voiture, on va d'abord faire un prototype pour étudier la faisabilité d'une part, mais aussi l'aérodynamique, l'ergonomie, différents aspects. Et avant donc de lancer la production de la matière, on va faire des prototypes et les améliorer petit à petit pour arriver à la fin au modèle idéal. Donc ça, c'est pour l'industrie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des maquettes qui servent à étudier les fluides. C'est-à-dire que ce sont des maquettes qui permettent, comme un peu dans les prototypes, d'étudier la faisabilité. Par exemple, je pense là aujourd'hui à un pont. Avant de fabriquer un pont, de construire un pont, on va fabriquer des maquettes et on va les mettre en étude de soufflerie. C'est-à-dire qu'on va souffler de l'air sur ces maquettes-là pour voir comment ça agit, l'air, non seulement sur l'ouvrage, mais aussi sur tout le quartier autour, pour éviter qu'il y ait des soucis dans les constructions qui sont autour. Alors là, j'ai parlé donc de ce type de prototypes. Il y a des maquettes qui sont pour la communication. Pour la communication de certains produits type parfum, téléphone, ce type de choses. Ce sont des maquettes que même s'ils sont à l'échelle réelle, on les nomme également des maquettes puisque c'est pas le produit fini. Après, les maquettes qui me concernent un peu plus, c'est celles que j'ai allées, c'est les maquettes d'architecture. Et dans ces maquettes d'architecture, on peut trouver trois types de maquettes. Les maquettes donc dites proprement d'architecture ou des concours d'architecture, ce sont des maquettes blanches, plutôt sobres, où on va pas étudier le détail ou la finition ou les couleurs de chaque bâtiment, mais plutôt on va étudier les volumétries, les rapports des volumes entre les bâtiments pour voir s'il y a une cohérence. Donc, ce type de maquettes sont souvent utilisées quand une mairie, par exemple, fait un appel à des cabinets d'architecture et veut choisir un projet. Donc, il y a plusieurs équipes d'architectes qui vont présenter leurs maquettes et les jurys vont décider en fonction des maquettes et puis des documents techniques, bien sûr, quel est le projet le plus adapté. Là, je pense justement aujourd'hui à une des dernières maquettes que j'ai faites, c'est la reconstruction des halles. Donc, il y a un gros projet qui fait parler beaucoup de gens. Les architectes, ce sont chaque équipe, ce sont ont présenté leur projet et certains ont présenté une maquette. Et donc, ça, le jury pourra décider. Quel est le projet le plus adapté? J'essaie de pas trop m'égarer, je continue sur les sur les autres
Je t'en prie.
types de maquettes. Donc j'ai dit concours d'architecture. Ensuite, la promotion. Les maquettes des promotions sont les maquettes que vous voyez souvent dans les vitrines des agences des promotions immobilières. Ce sont des maquettes avec beaucoup de couleurs qui essayent d'imiter les textures, les matières réelles avec des personnages, des voitures et tout ce qu'on appelle l'animation. Des fois, elles sont éclairées aussi. Donc ça, c'est un outil aussi des communications ou un outil des ventes. Les promoteurs utilisent ces maquettes-là pour vendre leurs biens. Voilà, et donc une dernière typologie des maquettes, les maquettes d'urbanisme. Là, on parle des maquettes souvent un peu plus grandes, qui prennent en compte pas un bâtiment, mais tout un quartier, voire même toute une ville des fois. Et ce sont des maquettes qui sont utilisées souvent par les collectivités pour expliquer aux habitants, eh bien, quels vont être les différents chantiers à venir. Dans les années à venir, pour qu'ils fassent un outil dans ce cas-là des communications. Ça permet de transmettre les informations de la collectivité vers les habitants.
Eh bien, le temps de digérer toute cette typologie de maquettes, on va faire une première pause musicale et tu nous as apporté un CD surprise. Donc je vais lancer la première musique et tu pourras nous dire après de quoi il s'agit.
Es lo que pasa, Fernando. Es
Radio Campus Tours, vous écoutez Sortez, bienvenue si vous nous rejoignez. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Nicolas Rubio, maquettiste. Alors, puisque c'est toi qui as apporté ce CD avec plein de choses dessus, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'écouter ?
Alors, on vient d'écouter Nibia Gongola. C'est une chanteuse qui a été produite par Quantique, que vous connaissez peut-être. C'est un artiste anglais qui tourne pas mal et qui a plein de projets différents, dans plein de musiques différentes, là un peu dans des musiques d'Amérique du Sud. C'est un morceau que j'aime beaucoup parce qu'il est très calme au début, très dansant à la fin, et les paroles sont très touchantes, un peu, enfin très tristes. Ça parle un peu d'un homme qui tue sa femme par jalousie. Mais voilà, comme je te disais, je trouve que c'est des morceaux qui donnent à réfléchir.
Oui, bon, bah, ambiance.
Désolé pour l'ambiance, du coup.
Bah, tant pis, hein, malheureusement, c'est des choses qui arrivent beaucoup trop encore. Alors, nous parlions de maquettes. Tu nous as présenté toutes les maquettes qui peuvent exister. Et j'avais une question à te poser, puisque tu parlais d'architecture, d'objets de communication, mais il me semble aussi qu'on peut voir des choses qui, du moins pour les yeux profanes, s'apparentent à des maquettes, et notamment dans le domaine du théâtre, je pense sur scène, alors, ou même dans les musées aussi, des fois, on peut voir des choses qui me semblent être des maquettes. Et quelle différence tu fais, toi, entre scénographie et maquette, ou alors est-ce qu'une maquette, ça peut être un élément de scénographie ?
Oui, alors j'ai pas réussi à tout aborder dans le champ des maquettes, des peurs de ennuyer nos auditeurs.
Mais pas du tout, ils nous écoutent avec intérêt, je n'en doute pas.
Mais c'est vrai que justement dans cet exemple que tu donnes, les scénographes et les maquettes, bah, ils ont beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire qu'un scénographe, il fait souvent des maquettes, mais alors la différence, c'est que ces maquettes-là, elles sont souvent surdimensionnées. Alors, par exemple, je travaillais à une époque à Nantes pour un atelier qui faisait des décors pour les théâtres ou alors pour les musées. Et on fabriquait souvent des champignons qui faisaient 2 mètres de haut ou alors des personnages qui faisaient 3 mètres de haut. Des choses qui étaient surdimensionnées. Pour moi, ça reste toujours de la maquette. C'est en fait quelque chose qui se regroupe. Après, par contre, les processus de fabrication ne sont pas du tout les mêmes. Dans la décoration, on va plutôt travailler peut-être le bois, les résines, les polystyrènes, alors que dans les maquettes, on est restreint à deux matériaux principaux, pardon, le plastique et le bois.
Et est-ce que tu veux nous expliquer d'ailleurs, puisque comme tu le disais tout à l'heure, tu fais surtout des maquettes d'architecture, est-ce que tu veux nous raconter comment tu fabriques une maquette à partir du moment où tu as les indications du client ou les plans, comment tu fais en fait, comment tu choisis le bois ou le plastique, quels critères tu évalues pour choisir un matériau, et ensuite quels outils tu utilises jusqu'à la finalisation de la maquette?
Alors, le choix entre la première chose, c'est le choix entre bois ou plastique, voilà, la matière première. Ça vient défini souvent par les clients. C'est-à-dire que si le client, selon l'utilisation qu'il veut faire de sa maquette, il nous précise s'il aurait envie de voir des matériaux entre guillemets nobles qui donneraient un résultat. Adapté à sa demande, en tout cas, où l'on pourrait voir plusieurs types d'essences différentes, ou alors s'il a plutôt besoin que la maquette soit et respecte les couleurs réelles. Et donc à ce moment-là, on va partir plutôt sur du plastique, parce que c'est une matière qui se travaille bien et qui permet de la peindre sans souci. Alors, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le client va nous transmettre des plans. Ce sont des plans informatiques essentiellement. Donc, sur chaque projet, on va avoir toujours entre une journée et une semaine de travail sur des logiciels. Moi, j'utilise AutoCAD. Ça permet de travailler ces plans-là. Et le travail que je vais faire, c'est surtout décortiquer, simplifier un petit peu les données, puisque sur ces plans-là, il y a beaucoup d'informations pour tous les techniciens qui vont intervenir sur l'ouvrage. Moi, les informations essentielles sont quelle est la taille de la façade, quelle est la taille des fenêtres, quelles sont les parties qui viennent en renfoncement ou alors qui sont saillants, voilà, ce type d'éléments. Donc, je travaille sur des plans masse, sur des façades, sur des coupes et j'ai créé des nouveaux fichiers qui vont servir à commander des machines, des coupes numériques. Donc, avec ces machines-là, on va ensuite découper chacune des pièces. Et une fois que ça c'est fait, on va les assembler. Donc selon nos plans. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est imprimer les plans à échelle de la maquette et puis me baser avec mes pièces toutes découpées. Je me base sur ces plans-là pour commencer à monter les volumes. Et là, c'est une étape qui pour moi est un petit peu magique parce que après avoir passé peut-être une semaine à travailler sur un écran et puis à usiner, puis faire de la poussière, on se rend compte en fait de qu'est-ce que c'est le volume réellement, même si on l'a déjà imaginé, maintenant on peut commencer à le toucher. Et donc on se rend compte qu'en fait, ah oui, la taille du bâtiment par rapport à l'autre, c'est vraiment imposante ou c'est vraiment intéressante. Enfin, plein de petits détails des façons théoriques, on a un petit peu plus de mal à représenter. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est pour cela que l'intérêt des maquettes aujourd'hui est toujours d'actualité. C'est parce que même si on a la possibilité d'avoir des très bons rendus virtuels, c'est qu'en voyant vraiment le volume et en les touchant presque, et qu'on se rend compte de certaines choses.
Alors j'insiste lourdement sur les matériaux dont tu parles, ça veut dire que dans ton atelier, tu as une, mais je sais pas, une pile de plaques de bois, des tonnes de, comment, de plaques de plastique. Comment tu as ça? Est-ce que tu fabriques toi-même la plaque de plastique? Comment tu fais tout ça?
Alors, les matières premières, je ne les fabrique pas.
Comment ça, tu fabriques pas du bois?
Alors, concernant le bois, justement, j'ai la chance d'avoir dans ma famille des menuisiers qui peuvent me fournir des essences très, très particulières pour les demandes un petit peu qui sortent de d'habitude. Mais aussi, j'ai fait appel à des fournisseurs qui sont à Tours ou dans d'autres villes pour les essences de bois. Ça demande juste d'avoir une petite connaissance de certaines essences pour savoir aiguiller un petit peu les clients, savoir les diriger vers quelque chose qu'ils voudraient avoir fini. Donc ça, c'est pour la partie bois. Pour la partie plastique, eh bien, c'est pareil. Je vais chercher mes plastiques chez des fournisseurs qui sont à Tours. Pardon. Nous avons un très large choix en termes des matières plastiques. Ça peut être du PMMA, aussi appelé du plexi. Ça peut être du PVC. Ça peut être du PE. Enfin, il y a du polycarbonate aussi. Il y a une très large gamme des plastiques.
Mais alors, par exemple, est-ce que ça arrive que tu aies des clients qui aient des demandes irréalisables, en fait, qui te disent je veux... je sais pas, une maquette en palissandre, je sais pas, mais un truc impossible. Est-ce que ça arrive?
Alors, ça ne m'est jamais arrivé dans le sens où la matière était trop difficile à trouver. Mais ça m'est arrivé, d'ailleurs ça m'arrive souvent, des demandes entre guillemets impossibles, dans le sens où c'est une demande pour demain et que le projet est assez imposant et qu'on aurait besoin d'au moins 3 semaines. Donc, dans ce sens-là, oui, ça m'arrive tous les jours. Mais des demandes sur les matériaux, pour l'instant, ça va.
Patience, ça viendra.
Oui.
Alors, je voudrais savoir, sur une commande, à peu près sur les commandes que tu peux avoir régulièrement, on ne peut pas se baser sur des commandes exceptionnelles, combien de temps il te faut entre le moment où tu reçois les indications d'un client et le moment où la maquette est faite? Combien de temps tu passes à réaliser une maquette, à peu près?
Alors, c'est assez difficile à dire puisque ça peut être des toutes petites maquettes. Là, par exemple, la dernière que j'ai faite, elle faisait 21 cm par 30, je crois. Donc, c'est plus ou moins un A4. Ça, c'est très petit. Et la plus grande que j'ai faite, elle faisait 2 mètres par 2 mètres. Pardon, 3 mètres par 2 mètres. Alors, entre la plus petite qui fait cette taille-là... où on peut mettre une ou deux semaines. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Ça dépend de la forme et notamment du niveau du détail souhaité par les clients. C'est-à-dire que des fois, on peut partir sur des volumes simples et donc là, ça va vite. Mais des fois, on peut aussi avoir besoin de dessiner ou d'usiner chacune des fenêtres. Et donc là, ça prend un peu plus de temps. Et donc, pour les gros projets, on a mis, moi je me souviens, pour cette grande maquette, on a mis 3 mois et on était 3 maquettistes. Donc, ça, c'est les deux extrêmes. En moyenne, une maquette est souvent réalisée en 3-4 semaines.
Donc, 3-4 semaines de travail en moyenne et quand même pour qu'on se fasse une idée de ton travail, est-ce que tu veux nous dire combien une maquette... que tu mets 3 ou 4 semaines à faire, ça coûte combien en fait à peu près?
Alors ça c'est encore plus difficile à répondre puisque ça dépend non seulement des matériaux qu'on va utiliser mais aussi de la finition que le client souhaite avoir, du délai qu'on a parce que des fois on doit faire appel à des collègues, à des confrères qui vont venir nous aider. Des fois par exemple si c'est des maquettes où on va représenter beaucoup de mobilier, eh bien, on doit faire appel à des impressions 3D. Non, pas les impressions 3D qu'on connaît un peu plus, enfin qu'on a vu un peu partout, les impressions en PLA, mais plutôt des frittages, des poudres. Donc, c'est des grosses machines et là, on doit faire appel à des fournisseurs qui sont loin et qui sont assez, enfin, qui ont des prix assez élevés. Et donc, pour essayer de répondre d'une façon plus concrète à ta question,
Oui, j'attends toujours.
une maquette, disons entre guillemets moyenne, des promotions peut coûter autour des 5 000 ou 6 000 euros.
5 000 ou 6 000 euros, bon, pour quand même un mois de, au moins 5 semaines, 4 semaines, un mois de travail.
Ouais, là je pensais plutôt aux maquettes des 3 semaines, mais
D'accord.
c'est dans ces eaux-là.
Voilà, bon.
Voilà.
Eh bien, puisqu'on parle de sous et que c'est un sujet que généralement les gens n'aiment pas trop, je propose de faire une seconde pause musicale et nous allons toujours écouter les musiques qui sont sur le CD surprise. Donc je lance une musique et tu nous diras après de quoi il s'agit.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat. Venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours Sortez et bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité est toujours maquettiste. Il s'appelle toujours Nicolas Rubio et c'est toi qui as choisi cette pause musicale. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ?
Eh bien, là, on vient d'entendre Ana Tijoux. C'est une artiste franco-chilienne que vous connaissez sûrement. Le morceau s'appelle Somos Sur. C'est un morceau qui parle de tous les peuples, entre guillemets, du Sud, en allant de l'Argentine jusqu'à la Palestine.
Oui, en effet, c'est un horizon large. Et de quoi elle parle, cette chanson ? Qu'est-ce qu'elle dit alors ?
Eh bien, il y a un moment où il dit tous les peuples qui sont sous la domination, tous les peuples qui sont c'est pas facile de les traduire en même temps.
Comment ça, c'est pas facile ?
Tous les peuples qui sont dominés, oui, tous les peuples, je sais pas comment traduire, omis. Peut-être les peuples omis, ce qu'on ignore.
Oubliés.
Ouais, peut-être. Les peuples oubliés, voilà.
Méprisés, et donc là, peut-être.
Ouais. Là d'ailleurs, c'est un morceau qu'il chante avec Shadia Mansour, qui est une chanteuse palestinienne. Et donc à un moment, ça bascule de l'espagnol à l'arabe. Et donc chaque artiste crie ses paroles de sa façon.
Et alors, pour rester sur le plaisir de l'oreille, est-ce que tu veux, par curiosité, nous faire un inventaire des outils que tu as dans ton atelier ?
Oui, très bien.
Attention,
j'aime bien
hein.
Les questions comme ça que j'ai pas eu le temps de préparer.
Faut pas en oublier un seul, hein, attention.
Là, on est mal. Alors, j'utilise beaucoup une toute petite scie circulaire, mais alors une scie circulaire que quand j'ai des artisans qui viennent dans mon atelier, ils rigolent parce que c'est des outils à petite taille du coup. Cette scie-là, elle est un peu plus petite qu'une feuille A4, pour que vous fassiez une idée. Et donc il y a après au milieu la lame hein, circulaire qui tourne. Ça me permet de couper, que ce soit du bois ou du plastique. pardon. J'utilise beaucoup un robot, une découpe numérique que j'utilise pour chaque projet. Tellement je l'utilise qu'il a son petit nom. Ça me permet d'avoir des journées en compagnie. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, les scies, j'ai des équerres à talons. J'ai des ponceuses, aussi nommées des lapidaires. J'ai des scies à chantournée, j'ai des scies à ruban. Quoi d'autre ? J'utilise des fois des compas aussi. Et puis
peut-être, je sais pas, des rabots, des ciseaux à bois.
Non, vois, ce type de choses, non.
Ah, puisque je suis
on a, alors, dans mon atelier, on a un rabot. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que je partage mon atelier avec un jeune homme qui fabrique des meubles en palette. Et donc, lui, il en a besoin pour son activité. Mais pour l'activité du maquettiste, c'est pas nécessaire puisque quand on utilise du bois, ce sont des plaques plutôt fines et qui ont déjà une finition idéale pour nos maquettes. Donc, pas besoin de les raboter. Ciseaux à bois, si, ça je n'ai, c'est vrai. Ciseaux à bois, cutter. Un outil que j'utilise beaucoup vers les fins des projets, ce sont des petites pinces à épiler. Ce sont des pinces qui me servent à prendre tous les petits arbres ou personnages qui des fois font moins de 10 mm de hauteur, et donc pour les positionner dans les balcons, ce type de choses.
Voilà, donc auditeur, pour briller en soirée, rappelle-toi qu'on ne rabote pas une maquette.
Rappelle-toi ça,
c'est important. Et alors, plus sérieusement, peut-être que tu veux nous dire un mot sur Artefact, comment tu es entré chez Artefact, pourquoi tu as eu envie en fait, de rentrer dans cette coopérative, qu'est-ce que ça t'apporte de plus que d'être à ton compte
ouais.
Tout seul.
Alors, Artefact m'apporte aujourd'hui énormément de choses, ça je le dis sans vouloir faire en trop. Il faut savoir que moi j'ai commencé mon activité donc en 2010 et jusqu'à 2017 je suis resté toujours à mon compte. Bon, L'activité s'est passée plutôt bien. J'avais toujours beaucoup de travail, donc je ne pouvais pas me plaindre. J'aurais pu continuer comme ça. Mais ma motivation principale pour sortir de ces statuts que j'avais, c'était d'aller vers les autres, de pouvoir faire des projets en commun. Et ça, tout de suite, je l'ai vu la première fois quand je suis arrivé chez Artefact, qui est une coopérative dite CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Donc ça m'a permis de me mettre en relation avec plein d'autres coopérateurs. On est 70 dans cette coopérative et surtout dans des milieux complètement différents. Donc il y a des gens qui sont des écrivains, il y a des traducteurs, mais il y a aussi des graphistes, il y a d'autres maquettistes aussi, il y a des menuisiers, il y a une quantité énorme de métiers très différents qui ont tous une chose en commun, c'est qu'ils sont dans les milieux de l'art. Donc cette coopérative, elle s'occupe du milieu artistique et numérique. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je me souviens plus.
Je ne sais pas.
Il y a tellement de bienfaits de faire partie de cette coopérative Artefact que je ne pourrais pas tous les
peut-être, puisque tu dis, il y a là énormément de gens avec des compétences très, très différentes, mais toujours liées à l'art. Peut-être aussi que ça permet, enfin je suppose, de lier des compétences qui a priori n'ont rien à voir, mais qui justement, parce qu'elles sont au même endroit, au même moment, peuvent permettre d'imaginer des projets un peu fous. Est-ce que ça te semble possible?
Tout à fait. J'ai été par exemple contacté par un des coopérateurs qui est artiste, plasticien, et donc pour un de ses ouvrages, il souhaitait montrer une maquette de ce qu'il allait faire et de ce qu'il allait proposer. Donc dans la vie en dehors d'Artefact, on se serait peut-être jamais croisé cet artiste-là et moi, puisque il n'aurait pas eu mes coordonnées ou autre. Mais en tout cas, ici, en nous voyant régulièrement sous le même toit, entre guillemets, on a réussi à se dire, mais attends, toi et moi, on peut faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas essayer ça? Là, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis aussi en train d'essayer de faire des projets avec d'autres coopérateurs. On a créé des pôles différents, des pôles, là je peux nommer les pôles makers, où on essaie de faire du bricolage ensemble, et aussi ouvert à d'autres personnes qui ne sont pas dans la coopérative. Mais je pense aussi au pôle 3D, où on fait tout ce qui est 3D, que ce soit 3D virtuel ou 3D réel. Enfin, il y a plein d'autres pôles qui se sont créés, le studio, le pôle médiation, il y a plein de pôles qui permettent de lier les compétences des différentes personnes et de répondre à des projets d'une façon tout à fait bénéfique pour tout le monde.
Et alors, par exemple, un projet qu'on pourrait imaginer, hein, peut-être que ça existe déjà, allez savoir, puisque à Artefact, comme tu le dis, il y a des compétences d'artistes, mais il y a aussi énormément, il y a un pôle médiation, donc il y a plein de gens qui font des actions de médiation culturelle, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des activités artistiques ou de réflexion ou de plein de choses à des habitants de quartiers divers et variés. Et alors, on me dit, bah, tiens, par exemple, une maquette, on pourrait te proposer de faire la maquette d'un quartier, admettons le Sanitas, pourquoi pas. Et puisqu'il y a des gens qui ont une compétence en vidéo, peut-être imaginer, filmer en fait dans la maquette un trajet ou quelque chose, et de rajouter à ça, par exemple, des textes qui ont été écrits dans le cadre d'un atelier d'écriture, puisqu'on a aussi des auteurs chez Artefact. De se dire, comme ça, on arrive à superposer des compétences diverses qui, a priori, n'ont absolument rien à voir entre le travail vidéo, le travail de maquettiste, le travail d'atelier d'écriture. Et pourtant, on peut imaginer un objet final commun.
Ouais. En tout cas, ça me paraît un très bon appel à projet, ce que tu viens de faire.
Allô, Artefact, entendez-moi.
Voilà, s'il y a des gens motivés chez Artefact ou qui sont motivés tout court et qui souhaitent rejoindre Artefact, soyez les bienvenus. Sachez qu'il y a plein de projets comme celui que tu viens de nommer, très intéressants. Tout est ouvert en fait, toutes les possibilités sont là.
Voilà, l'occasion fait le larron. Et pour terminer, peut-être que tu as un site internet où on peut aller voir ton travail?
Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre sur la barre de recherche les www.archetype.fr. Et donc, vous allez avoir un petit aperçu de quelques-unes de mes maquettes. Mais aussi, il y a un peu des textes où j'explique ma façon de procéder, ma philosophie, plein d'autres choses.
Mais archétype avec un Y.
Oui, pardon.
Ouais, voilà. Non, mais il faut le dire parce que tout le monde.
En fait, si vous voulez, je peux même expliquer pourquoi archétype. L'idée.
En une minute et demie.
En 30 secondes. C'est venu du mot archétype, qui est pour nous un modèle idéal. Donc, partons de ces modèles idéaux. On est parti sur archétype, qui est l'archétype de l'architecture.
Eh bien voilà, qu'on se le dise, Nicolas Rubio, merci, tu es maquettiste et tu fais partie d'Artefact. Et pour terminer cette émission, on va écouter une nouvelle chanson sur le CD Mystère que tu nous as apporté. Et alors, c'est la piste numéro 7. Alors, est-ce que de mémoire, tu te souviens de ce que c'est, avant qu'on puisse l'écouter?
Alors oui, tout à fait, la piste numéro 7. Alors juste, il faut que je... 4... 5, 6, 7. Alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup.
Ça tombe bien, alors.
C'est comme si j'avais fait le CD. C'est un morceau qui s'appelle Queremos Paz, des Gotham Project, que vous connaissez tous. Et donc, c'est de l'électro-tango.
Alors, c'est parti. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Tour. Vous retrouverez bien sûr cette émission sortée en rediffusion demain et en podcast sur notre site. Bonne soirée à tous.
Salut.